Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est encore et toujours une joie d'être parmi vous cet après-midi pour partager la parole de notre Seigneur. Et rassurez-vous, vanité des vanités, mais cet après-midi, le moment que nous allons passer ensemble n'est pas un moment vain, car il n'est jamais vain de partager la parole de notre Seigneur. Alors, je vais essayer de faire court mais concis dans les quelques minutes qui me sont apparties pour partager cette pensée avec vous, la pensée de l'Ecclésiaste. Nous avons déjà eu un exemple de sa pensée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce texte avant ou de lire d'autres textes de l'Ecclésiaste. Bon, j'ai arbitrairement choisi celui-ci. Donc, dans ce chapitre, qu'est-ce qui se dégage ? Ben, en gros, il y a des versets 1 à 6, il y a la vanité de la richesse, et puis ainsi que de longues vies et des familles florissantes. Et puis du verset 7 à 12, là, il est question du minuscule avantage que chacun peut trouver dans les choses extérieures. Voilà. L'homme, la femme, bien sûr, a souvent tout ce dont il a besoin pour son plaisir extérieur. En tout cas, en majorité, la plupart du temps. Et cependant, on a vu dans les versets, là, que le Seigneur lui laisse la cupidité ou des mauvaises dispositions pour qu'il ne fasse pas un bon usage ou un usage raisonnable de ce qu'il possède. Sa plénitude intérieure reste floue et sa recherche constante. L'homme est toujours en recherche permanente de quelque chose. Et là, d'une manière ou d'une autre, là on voit que parfois même ses possessions parviennent à des étrangers. Et il est dit que ceci est vanité. Vous savez qu'une famille nombreuse était une chose recherchée et une source de grand honneur parmi les Hébreux. Et une longue vie est le désir de l'espèce humaine en général. Alors même en ajoutant tout cela, un homme ne peut pas être capable véritablement d'aimer sa richesse, d'aimer sa famille et sa propre vie. On pourrait donner une illustration inverse, celui qui est entré dans la vie seulement pour un moment, puis la quitte rapidement, a un sort préférable à celui qui a vécu longtemps et dans les souffrances. Et puis les versets 7 à 12, on pourrait dégager ces grandes idées. Avoir peu pourra servir à nous soutenir assez confortablement. Et avoir beaucoup ne donnera pas forcément grand-chose de plus. Les désirs de l'âme ne trouvent rien dans la richesse du monde pour donner satisfaction à l'être humain. L'homme pauvre peut aussi obtenir son réconfort aussi bien que le riche, sans en posséder certains inconvénients. Il est meilleur de vivre par la foi dans les choses à venir que de vivre par les sens qui repose seulement sur des choses présentes. C'est assez philosophique un peu cet après-midi. C'est un petit peu inhabituel peut-être de ce que l'on a l'habitude de partager, mais c'est intéressant de se pencher dans cette réflexion. Nous avons ce que Dieu veut et il nous donne ce qui nous convient. Mais les plus grandes possessions et les honneurs ne peuvent pas nous mettre au-dessus des événements ordinaires de la vie humaine. Les choses que poursuivent les hommes sur terre augmentent la vanité. Et vous savez tout ce que notre vie sur terre est comptée en jours, elle est déterminée, notre vie sur terre. Elle est fugitive, elle est incertaine. Et retourner à Dieu en ayant confiance dans sa miséricorde à travers Jésus-Christ et nous soumettre à sa volonté. Voilà le but à atteindre. Alors nous glisserons à travers ce monde fait de vexations, fait d'insatisfaction, pour nous retrouver dans un lieu heureux, où il y a de la plénitude, où il y a la plénitude de la joie et des plaisirs pour toujours. Voilà ce que l'on peut dégager de ce chapitre en condensant. Parlons de l'auteur. Qui a écrit qui est l'Ecclésiaste? Alors, l'auteur se nomme Qohélète. C'est un nom qui peut signifier le chef de l'assemblée, ou du peuple, ou des sages. Il se dit aussi fils de David, qui a régné à Jérusalem. Et la tradition a attribué ce livre à Salomon. Voilà, ça permet de savoir un petit peu comment se détermine ce livre de Cantique, de l'Ecclésiaste, pardon. Quand on a lu l'Ecclésiaste, en fait, on s'aperçoit que ça se présente comme un livre, comme le journal de bord d'un homme en quête du sens de sa vie et en quête aussi du sens de la vie. Or, ce sens, il ne peut le trouver que s'il découvre une valeur permanente. Dans cette quête essentielle de toute vie, il ne part pas des données de la révélation biblique. Il ne part pas de ça. Il prend en quelque sorte le chemin inverse, l'Ecclésiaste, en se mettant dans la peau de quelqu'un qui aurait seulement son intelligence naturelle. Il part du donné et du vécu. Il observe, il raisonne, il expérimente, il discute. Il observe ses contemporains. Il se pose la question, mais que cherche-t-il? Voilà. Discuter avec les gens, que cherche-t-il? Voilà, ça a été la réflexion basique de Qohélète. Et on s'aperçoit que cette approche d'il y a quand même un certain grand nombre d'années, elle est proche encore de nous aujourd'hui. Et pour qu'un but de vie soit valable à ses yeux, il faut qu'il explore les limites de cette vie. Parce que Dieu a mis dans notre cœur le sens ou l'intuition de ce qui est éternel, c'est-à-dire qui dure au-delà de cette vie. C'est cette intuition qui empêche l'homme de se contenter d'autre chose. L'Ecclésiaste rejoint là bien des penseurs et des poètes qui ont exprimé à leur manière ce besoin de trouver un but de vie dépassant les limites de ce qui est passager et périssable. C'est pour cette raison que dès le départ, l'Ecclésiaste pose la question: quel profit durable, permanent, quel bénéfice final l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Puis, l'Ecclésiaste examine avec lucidité les différents buts de vie que les hommes se fixent. Richesse, plaisir, sagesse, moralité, et ainsi de suite. Chacun son petit but, avec une régularité implacable. Mais la mort, entre aussi dans cette balance, dans cette recherche. Et que reste-t-il après ? Est-ce que les richesses subsistent ? Le linceul n'a pas de poche. Les plaisirs, qu'en reste-t-il ? Qu'est-ce que cela me rapporte ? Et le savoir, que devient notre savoir ? L'Ecclésiaste écrit « Augmentez vos connaissances ». C'est bien. Vous augmenterez vos souffrances. Ah, c'est moins bien. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Il en arrive à certaines conclusions, et notamment à cette conclusion-là. Que reste-t-il aussi de la sagesse, avons-nous dit ? Et là, l'Ecclésiaste écrit « Un même sort attend le sage et l'insensé ». Mais tout cela est vrai. L'Ecclésiaste n'invente rien. Il constate. Et puis il ajoute aussi « Tout est futile et inutile. Il n'y a rien de valable et de permanent sous le soleil. Le bilan est déposé, il est inquiétant. » Et ça, c'est une citation qu'a fait André Malraux. Intéressant. Vous savez que cette expression « sous le soleil » revient 24 fois dans ce livre. Et uniquement dans ce livre et nulle part ailleurs. C'est pas qu'il n'y a pas de soleil hein, dans le reste de la Bible. Et l'examen auquel se livre l'Ecclésiaste est strictement limité à l'horizon de cette terre. Sa seule réflexion, sa seule étude, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homme ou d'une femme pendant sa durée terrestre. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit qu'il ne part pas des données bibliques, il part uniquement des données mais terre à terre, terrestres, palpables, humaines, sensibles. Et Luther disait ceci, dans cet ouvrage, Salomon décrit comment les choses se passent ici-bas sous le soleil, parmi les enfants d'Adam, dans l'État, la famille et toutes les affaires du monde. Dans la société en général. La société, c'est nous qui la constituons. Et vous savez que le mot « ici-bas » s'oppose au mot « là-haut ». Là-haut. Mais au-delà de cette vie, il est une réalité dont l'Ecclésiaste est intimement persuadé, c'est celle du jugement qui attend chaque homme après la mort. Or, c'est finalement elle qui projette sur notre vie la lumière tant cherchée. Si Dieu a implanté au plus profond de l'être humain le sens de l'éternité, c'est pour que l'homme, même s'il vit de longues années, se souvienne que l'éternité est encore bien plus longue et qu'en comparaison, de ce fait, toutes les choses ici-bas sont furtives et futiles. Parce qu'il n'en reste rien. Un jour nous venons, un jour nous partons. Nous venons nus, nous partons nus. Voilà donc la clé ultime de ce livre de l'Ecclésiaste. C'est en comparaison de l'éternité que tout ce qui existe sous le soleil est vanité. C'est cette éternité qui doit commander notre manière de vivre, et non le contraire. Ce n'est pas ce que nous allons faire ici-bas, ce que nous faisons ici-bas, qui va nous préparer une place pour l'éternité. Citons, jeune homme, réjouis-toi, suis les élans de ton cœur et poursuis ce qui charme tes yeux. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera des comptes de tout ce que tu fais. Ça, on retrouve tout ça dans l'Ecclésiaste. Et puis pense au Créateur, au temps de ta jeunesse. Vous les jeunes, il est un petit peu moins jeune. Il faut savoir jouir de sa jeunesse, mais pense au Créateur au temps de ta jeunesse. N'attends pas que se rompe le fil argenté de la vie, que la poussière retourne d'où elle est venue et que le souffle de vie remonte à Dieu qui l'a donné. Encore une citation de l'Ecclésiaste. C'est à la lumière de cette réalité, le jugement, et de ce qui la précède, la vieillesse et la mort, que l'Ecclésiaste, il entend démystifier, il entend contester toutes les consolations, toutes les recettes, entre guillemets, de bonheur avec lesquelles l'homme essaye de se rassurer. Il refuse de croire à toutes les valeurs, les doctrines, les idoles auxquelles les hommes vouent leur confiance. Dans ce livre d'Ecclésiaste, il est question de valeurs relatives, c'est-à-dire tout ce qu'il a examiné, les richesses, les plaisirs, le travail, la sagesse, ne saurait être pris comme valeur absolue, donc valeur durable, susceptible de donner un sens à la vie. Cependant, parmi ces choses, certes, certaines sont meilleures que d'autres. Et relativement, une valeur pour cette vie. Un travail valorise la vie. La recherche de la sagesse apporte une qualité de vie. Mais c'est dans cette tension entre valeur absolue et valeur relative que réside le secret d'une vie équilibrée, conforme à la volonté de Dieu. Mais ça pour cette terre, pour notre existence terrestre. Mais elle n'est pas le secret de l'homme. L'homme est plus que la joie et le plaisir. Mais quand la joie devient une valeur en elle-même, quand on la déifie, quand on lui donne plus de valeur qu'il ne faut, alors elle devient triste. Et elle se dévoile, elle aussi, comme une fragilité totale, qui ne peut être le vrai but de cette autre fragilité qu'est l'homme. Coëlette, il ne dénonce pas les œuvres humaines, il ne dénonce pas le plaisir, les constructions, les richesses, et même le vin et l'amour, que dans la mesure où il leur demande de résoudre le mystère de « Mais quel est votre destin dans tout ce que vous faites ? Quel est mes contemporains ? Quel est le but de votre vie dans tout ce que vous faites ? Pourquoi vous le faites ? À quoi ça sert ce que vous faites ?» C'est la relation de l'homme à ses réalités qui est faussée. C'est la place qu'il leur donne, le culte qu'il leur voue, qui sont aberrants. Parce que ça soit richesse, sagesse, plaisir, si ça devient une idole pour notre vie, nous sommes perdus. Dieu seul est digne de louange et d'adoration. Ainsi s'expliquent bien des contradictions apparentes dans ce livre. Des dévalorisations, qui se superposent, qui se juxtaposent aux valorisations de sagesse, de travail et de joie. Parlons maintenant de la valeur de la sagesse. C'est dans la conduite pratique de la vie que la sagesse révèle ses avantages et assure le succès. D'ailleurs, Coëlette écrit ceci, « L'esprit du sage le dirige tout naturellement du bon côté. » pour lui faire éviter le mal et les excès. Seigneur, donne-moi la sagesse dans ma vie, pour tout ce que je fais, que cela soit fait avec sagesse, avec cette sagesse qui vient de toi, pas avec ma sagesse. La sagesse préserve des actions précipitées inspirées par la colère. Elle préserve des mesures extrêmes pour corriger les injustices. Elle préserve de l'avarice ou du zèle iconoclaste. Ah, c'est mon idole. Et puis ça préserve aussi de l'envie qui aboutisse aux extorsions, à l'oppression, aux révolutions, ainsi de suite, ainsi de suite. On dit, ah, si Dieu existait, si Dieu était là, il n'y aurait pas de guerre. Combien de fois on nous sort cette phrase bidon toute faite? Oui, mais si l'homme avait de la sagesse, il n'y aurait pas de guerre. Et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais un seul grain de folie peut gâcher tout ce qu'une vie de sagesse a édifié. Parlons de la valeur du travail. Alors, tous les ouvrages que l'homme a faits et toute la peine qu'il s'est donnée ne sont que vanité. On ne sait pas qui profitera de notre travail après notre mort. Et même pendant notre vie, on peut être privé du fruit de son travail. Qui, de toute façon, comme on dit, l'argent sort plus vite qu'il ne rentre. Je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas. Mais l'Ecclésiaste dit aussi que l'inaction est encore pire. Donc vous mieux travailler. La paresse détruit l'homme, elle engendre pauvreté et ruine le travailleur. Il en perd son sommeil. C'est pourquoi l'Ecclésiaste exhorte au travail. Il dit ceci, il écrit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Vous savez que de ce temps-là, la semaine de travail, c'était 6 jours de travail et 1 jour de repos. Aujourd'hui, on aimerait bien avoir 1 jour de travail et 6 jours de repos pour partir en vacances, pour aller au cinéma, pour faire du sport, pour hein. Parlons de la valeur de la joie. Même paradoxe pour la jouissance et la joie. Elles ne peuvent donner un sens à la vie. Je peux faire semblant d'être joyeux, mais c'est pas ça qui donne un sens à ma vie. Et pourtant, Dieu a créé l'homme pour le bonheur. Et l'Ecclésiaste écrit, « Et pour faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, cela vient aussi de la main de Dieu. » Quel est donc le but ? Quel est donc le but de l'Ecclésiaste ? Depuis qu'il y a des hommes et qui pensent, parce qu'un homme est doué de la pensée, hein, minimum, ils se posent la question du sens de leur vie. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Dans tout ce que les gens autour de nous font, quel est le sens de leur vie ? Pourquoi font-ils cela ? Dans quel but ? Qu'est-ce que cela leur apporte ? Matthieu décrit d'une manière précise et confirme cette pensée de l'Ecclésiaste. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et Matthieu écrit aussi ceci, en complémentarité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Quelle a été la demande de Salomon pour sa vie quand il est devenu roi? Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce que la sagesse lui a permis de tout diriger d'une manière saine. On peut demander la joie, on peut demander la richesse, on peut demander la plénitude, mais ce ne sont que des petits traits. L'Ecclésiaste nous parle de la vanité de l'existence humaine. La vanité de la poursuite du bonheur, par la sagesse, par les plaisirs, par les grands travaux, par les activités humaines, par le dépassement de soi. Est-ce que nous savons apprécier les biens que nous avons? Est-ce que nous savons accepter le temps comme il vient, au lieu de chercher à court-circuiter le temps par une autre occupation de notre temps? L'Ecclésiaste décrit 8 situations humaines qu'il a observées. Et par 8 fois, il dit « J'ai vu, j'ai observé et j'ai considéré. » Et dans 7 cas sur 8, il est arrivé à la conclusion que l'homme est malheureux. Et l'homme malheureux est en opposition avec le fait que Dieu veut que l'homme soit heureux. Je vous laisse la curiosité, la soif de plonger encore dans le livre de l'Ecclésiaste pour trouver d'autres illustrations. C'est un livre très riche. Et vous verrez ô combien c'est intéressant, ô combien son analyse est intéressante, parce qu'on peut tout à fait la projeter dans ce monde actuel. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.